Voici une question qu'on entend bien souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? La parole de Dieu va nous révéler le secret du vrai bonheur, alors qu'elle répondra clairement à cette question, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas être heureux? Je ne pense pas. Ça me fait penser à une chanson de Gilles Vigneault qui dit « Tout le monde est malheureux ». Je pense qu'il dit vrai. Je suis certaine qu'on ne peut absolument pas être heureux tant qu'on n'a pas retrouvé notre relation personnelle et intime avec notre Créateur, avec Dieu. Et c'est Lui qui va nous instruire aujourd'hui. On va pouvoir mieux le connaître alors qu'Il répondra aux questions que voici. Qui devons-nous consulter quand nous avons une décision à prendre ou un problème à régler? Selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un moqueur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Est-ce que la liberté et le libertinage sont synonymes? Quel est l'outil que Dieu nous donne pour grandir spirituellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la parole de Dieu fasse effet dans le cœur des gens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du succès, pour être béni de Dieu? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la parole de Dieu en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, merci pour ce début de joie que tu vas nous donner dans le livre des psaumes. Merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. On s'attend à toi, nos cœurs et nos oreilles sont ouverts pour toi, pour t'entendre, et on désire que tu nous fortifies, que tu nous aides à mettre en pratique ce bel enseignement. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit le livre des psaumes. Nous avons dit que tous les psaumes parlent de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous étudions le psaume 1, qui parle de l'homme heureux. Cet homme est une image de Jésus-Christ. En introduisant le livre, nous avons aussi parlé de la poésie hébraïque qui est créée en mettant des idées en parallèle. Une idée peut être répétée en d'autres mots. Elle peut être mise en parallèle avec l'idée contraire ou encore l'idée d'un verset et amplifiée dans le suivant. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous voyons dans ce verset la conduite de l'homme heureux. Le verset commence par une approche négative en citant ce que l'homme heureux ne fait pas. La personne qui prend conseil auprès des méchants, qui suit la voie du pécheur et qui devient un moqueur, n'est pas heureuse. Nous voyons l'homme régresser de plus en plus. En fait, nous remarquons une régression, une détérioration et une dégénération chez l'homme qui n'est pas heureux. Il faut suivre la volonté de Dieu et non notre propre sagesse. L'homme heureux n'écoute pas les conseils des méchants. Il ne les consulte pas lorsqu'il a une décision à prendre ou un problème à régler. Avez-vous déjà remarqué que Jésus ne s'est jamais appuyé sur sa sagesse pour prendre une décision? Il s'est toujours laissé guider par la volonté de son Père céleste. Il n'a jamais dit à ses disciples, « Bien, je pense que nous devrions retourner en Galilée. J'y ai réfléchi et je pense que c'est la meilleure voie à prendre. Fiez-vous à mon jugement. » Jésus n'approchait pas ses disciples avec cette attitude. Il disait plutôt quelque chose du genre, « Je vais à Jérusalem parce que c'est la volonté de mon Père que je le fasse. » Il passait du temps dans la prière et il connaissait la volonté de Dieu. C'est ce qu'il guidait dans ses déplacements et ses actions. L'homme heureux ne consulte pas les méchants. Mes amis, c'est bien d'écouter les conseils et on peut en recevoir des bons. Cependant, il ne faut pas consulter les pécheurs ou les méchants. Nous devons marcher par la foi, une confiance placée en Dieu. Écoutez les conseils des impies, n'est pas marcher par la foi. Les impies sont ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu et qui ne le craignent pas. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas et qu'ils ne lui rendront aucun compte. Des milliers de personnes autour de nous ont cette attitude. Ils se lèvent le matin et ils n'ont aucune pensée pour Dieu. Ils ne le prient jamais. Ils ne le remercient pas pour leur nourriture et leur santé. Ils se comportent comme si Dieu n'existait pas. Nous sommes des pécheurs, voilà la réalité. L'homme écoute les conseils des méchants et bientôt il marche dans leur voie. Il ne vit pas comme il le devrait, comme Dieu le demande. Un proverbe parle d'eux. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Les Écritures affirment aussi, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Proverbe 16, verset 2. Le pécheur pense qu'il est correct, mais il est un pécheur. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Elle ajoute, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ésaïe chapitre 53, verset 6. Dieu a posé le poids de nos péchés sur les épaules de son Fils Jésus. Nous sommes des pécheurs. Voilà la réalité. L'homme heureux ne s'assoit pas avec les moqueurs. L'étape suivante, c'est de s'asseoir avec les moqueurs, c'est-à-dire devenir un athée. Le moqueur nie l'existence de Dieu et il s'oppose à la parole de Dieu. Il refuse qu'elle soit lue dans les écoles publiques ou ailleurs. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles, nous dit le Proverbe, chapitre 3, verset 34. Oui, chers amis, Dieu s'oppose aux moqueurs et il aura le dernier mot. C'est une idée effrayante, en fait. Maintenant que nous avons vu l'approche négative, examinons l'angle positif. Nous avons vu ce que l'homme heureux ne fait pas. Maintenant, voyons ce qu'il fait. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut aimer la loi de Dieu, pas se réformer. Le Seigneur Jésus a raconté l'histoire d'un homme possédé d'un esprit impur, que vous pourrez lire dans Matthieu chapitre 12, versets 43-45. Le démon quitta l'homme et celui-ci remit de l'ordre dans sa vie. Il s'est réformé et il pensait que tout allait bien. Mais il était toujours sous la juridiction du démon. Le démon voyagea ici et là, et lorsqu'il ne trouva point de repos, il revint avec sept autres esprits impurs. La dernière condition de l'homme fut pire que la première. De nombreuses personnes pensent que mettre un peu d'ordre dans sa vie, se réformer sur quelques points mineurs, est suffisant. Mais notez que l'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme de Dieu aime la loi de l'Éternel. Il éprouve de la joie en étudiant la parole de Dieu. Mes amis, la Bible est un livre captivant. Lire et méditer la Bible n'est pas un fardeau, ni quelque chose d'ennuyeux. Passer du temps dans la parole est un véritable délice. Béni soit l'homme, heureux soit l'homme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, les malheurs qui nous frappent, les pleurs, les soupirs, les gémissements, les cœurs brisés, les foyers brisés, les vies ruinées, sont le résultat de s'être détournés de la loi de Dieu. La Bible est claire sur ce point. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Les commandements que Dieu donne aux croyants comprennent plus que les 10 commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles.
Avez-vous cette joie, ce plaisir de méditer, d'étudier la parole de Dieu?
Liberté et libertinage ne sont pas synonymes. Cette idée d'être sauvé par la grâce de Dieu peut à certains d'entre vous faire croire que c'est vivre dans le désordre, dans le péché.
Chers amis, nous ne devons pas ignorer la loi de Dieu.
Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres.
Galates chapitre 5, verset 13.
Liberté et libertinage ne sont pas synonymes.
Il est vrai que nous n'avons pas observé les 10 commandements pour se mériter le ciel, mais cela ne nous autorise pas à les violer.
Être sauvé par la grâce signifie que nous ne pouvons pas répondre aux normes de Dieu.
Il exige la perfection, et nous ne l'avons pas.
Nous devons venir à Dieu par la foi. Après que nous sommes revenus à Dieu par la foi, nous devons vivre dans un état spirituel supérieur à celui de la loi.
Nous devons porter le fruit de l'Esprit, qui comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La grâce de Dieu nous discipline et nous guide.
La parole de Dieu est l'outil divin de la croissance spirituelle. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit?
Méditer, c'est ruminer la parole de Dieu.
Un ruminant, tel la vache, est un animal dont l'estomac contient 3 ou 4 poches.
L'herbe broutée va dans une poche. La vache ramène l'herbe de la poche à sa bouche, la remâche et la renvoie dans une autre poche de sa panse.
L'herbe est donc remâchée plusieurs fois.
Donc, méditer la parole, c'est la ruminer. C'est la tourner et retourner dans son esprit.
Thomas Kempis disait qu'il pouvait se reposer que dans un coin tranquille avec la Bible.
Déjà, en 1688, Bartholomé Ashwood disait que méditer, c'est ruminer.
Les croyants ont grandement besoin de faire cela aujourd'hui.
Jacques a parlé de l'homme qui regarde son visage dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il était.
Jacques, chapitre 1, verset 24.
Chers amis, nous devons méditer la parole, car c'est le miroir que Dieu emploie pour nous montrer ce que nous sommes.
Nous devons permettre à la parole de transformer nos vies.
Et qui la médite jour et nuit.
Dieu n'a pas prévu d'autre moyen de croissance spirituelle que l'étude de sa parole.
Les croyants doivent donc la méditer.
Vous pouvez devenir aussi occupé qu'une termite dans votre église et obtenir les mêmes résultats qu'une termite.
Mais ce n'est pas l'activité qui vous fera grandir spirituellement.
La méditation de la parole va vous permettre de croître spirituellement.
Méditer, ce n'est pas une petite lecture rapide, c'est de la rumination, du tournage et retournage de la parole dans votre esprit.
C'est ce qui fait l'homme heureux. Où est-ce que l'homme heureux prend sa puissance?
Le verset 3.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Dieu utilise les arbres qu'il a plantés, et non les arbres sauvages.
Le courant d'eau suggère l'abondance. L'homme heureux est planté, arrosé par le courant d'eau, et il devient un arbre solide.
Les arbres de Dieu sont des arbres qui ont été plantés. Ce ne sont pas des arbres sauvages.
Ceci est une image de la nouvelle naissance.
Le prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 3, dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. »
Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
Un térébinthe est un arbre que l'on retrouve en Palestine.
Dieu utilise les arbres qu'il a plantés et non les arbres sauvages. ses arbres, c'est-à-dire les croyants, ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont placés dans le jardin de Dieu, près d'un courant d'eau. Nous devons proclamer la parole et elle aura ses effets. Le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que je sais cela? Le prophète Isaïe l'a dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe chapitre 55, verset 10 et 11. Dieu veut que sa parole soit déversée comme la pluie. La radio est une excellente façon de faire cela. La parole est répandue partout. Nous devons proclamer la parole et elle aura ses effets. Les arbres croîtront. La parole nous abreuve, nous nourrit et nous purifie. Le psalmiste reprend cette idée au psaume 104, verset 16. Les arbres de l'Éternel sera saisis, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Les arbres sera saisis de la sève, la parole de Dieu est la sève. Les cèdres du Liban que Dieu a plantés étaient rassasiés de la parole de Dieu. Dieu veut que nous proclamions sa parole, qui donne son fruit en sa saison. Il est intéressant de noter que les arbres de Dieu ne donnent pas du fruit continuellement. Ils en produisent à leur saison, et la puissance provient de la parole de Dieu. Dans notre époque d'activité fébrile, certains affirment que la responsabilité première du chrétien est de gagner des âmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16, nous lisons « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Je ne le suis certainement pas, mais je sais que je suis appelé à proclamer la parole de Dieu. Amener des âmes au Seigneur Jésus est le travail de l'Esprit. Des gens viennent au Seigneur Jésus en écoutant nos émissions. Cela nous émerveille, mais ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Nous proclamons la parole de Dieu, et c'est Dieu qui va chercher les victoires. Et s'il n'y a jamais personne de sauvé, alors nous sommes une odeur de vie pour les croyants et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Ma responsabilité est de vous annoncer la parole de Dieu. Et ce que vous faites avec celle-ci est votre responsabilité. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, disait ceci lorsqu'il faisait une invitation à venir au Seigneur Jésus. « Si vous quittez cette salle sans être sauvé, c'est dommage, car vous ne pourrez venir en présence de Dieu et dire que vous n'avez pas entendu l'Évangile. Je suis devenu votre ennemi, car vous ne pourrez vous défendre en présence de Dieu en affirmant que vous n'avez jamais entendu parler de l'Évangile. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Vous devez la recevoir. Tous rendront des comptes à Dieu. Dieu veut que nous proclamions sa parole. Certains seront sauvés, d'autres ne le seront pas. Un arbre donne ses fruits en saison. Pendant un mois, vous pouvez avoir beaucoup de fruits, et le mois suivant, l'arbre n'en donne plus. Ce n'est plus la saison des fruits. La saison des fruits demande beaucoup de préparation. Il faut semer et aider l'arbre à fructifier. Distribuer ici et là des traités peut avoir une certaine valeur, mais mes amis, nous sommes là pour proclamer la parole de Dieu et ce doit être notre préoccupation première. Cela prend du temps et des efforts, car les fruits sont produits en leur saison. Persistons à témoigner. Aidons le feuillage ne se flétrit point. Les feuilles vertes sont le témoignage des chrétiens. Les arbres de Dieu sont des arbres à feuilles persistantes ou des arbres verts. Un chrétien nourri par le courant d'eau près duquel Dieu l'a planté ne perd jamais son témoignage. Un jour, un chrétien se rendit à New York. Pendant l'été, voulut visiter une église renommée. Il s'y présenta un dimanche matin et vit ces mots gravés dans la pierre au-dessus de la porte. « Le portail du ciel. » Mais il y avait un écriteau temporaire placé sous ces mots. « Fermé en juillet et août. » Mes amis, il ne devrait jamais en être ainsi dans la vie d'un croyant. Le croyant devrait toujours montrer son feuillage vert, qui est son témoignage dans le monde. De plus, le psalmiste dit, « Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis des bénédictions matérielles à son peuple qui occuperait la terre promise. Le croyant du Nouveau Testament n'a pas reçu de telles promesses. Dieu a promis de pourvoir aux besoins de ceux qui travailleraient à l'avancement de son royaume. Mais si nous avons des richesses abondantes, c'est que Dieu nous a donné au-delà de ce qu'il a promis. La richesse est source de bénédiction seulement si elle résulte d'une marche intime avec le Seigneur. Nous sommes bénis lorsque nous plaçons le Seigneur Jésus avant tous nos biens matériels. Notez l'insécurité des méchants, les versets 4 et 5. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Deux hommes, deux chemins, deux destinées. Le chemin du méchant est un cul-de-sac. Il mène à la mort. L'autre chemin mène à la vie. C'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Nous vivons dans des temps où les gens ne distinguent plus le bien du mal. Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Sa parole ne change pas en même temps que les philosophies et les courants de pensée du monde. Toutes les églises ont de l'ivraie parmi le blé. Les diamants que Dieu a créés se trouvent parmi les roches. Si les croyants et les pécheurs sont mélangés sur terre, il n'en sera pas ainsi dans le ciel. Les méchants ne pourront pas demeurer dans l'assemblée des justes. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La ruine. C'est quelque chose de final. C'est la perdition éternelle. Les méchants périront. Proverbes, chapitre 10, verset 28, dit « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » La Bible contient cette exhortation. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Le chemin large ressemble à un entonnoir. On y pénètre du côté large, et plus on avance sur ce chemin, plus il rétrécit pour finalement conduire à la mort. Si vous empruntez le chemin étroit, qui est le Seigneur Jésus, plus vous avancez, plus il s'élargit. Ce chemin mène à la vie. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean, chapitre 14, verset 6. Et dans Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant le psaume 2. Bonne lecture, chers amis.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quel beau départ dans le livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mes amis, qui ne voudrait pas un tel bonheur? Et ce bonheur est accessible à tous. Régent nous l'a bien enseigné aujourd'hui. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je répète ce beau verset. De nos jours, et c'était probablement comme ça autrefois aussi, les gens cherchent le succès dans leurs entreprises, mais sans le chercher à la manière de Dieu. Si je parle pour moi-même, je peux dire que dans le passé, j'ai eu du succès dans le domaine artistique, par exemple. Certaines de mes chansons ont été en première place au palmarès québécois. J'ai gagné des concours, je suis devenue la découverte de l'année en 1967. J'ai l'air de me vanter, mais vous allez voir que j'ai un but, là, tout ça. J'ai été choisie pour représenter le Canada au Festival de la chanson populaire au Japon. J'ai chanté pour nos soldats de l'ONU, en Allemagne, en Égypte, en Israël et deux fois à Chypre. J'ai enregistré mes compositions en français, en anglais, en japonais. J'ai bu les meilleurs vins. J'ai mangé dans plusieurs restaurants cotés 5 étoiles. J'ai magasiné dans les meilleures boutiques. Je me suis payé presque tout ce que j'ai voulu. Et mes amis, savez-vous combien de fois je viens d'utiliser le mot « je »? 12 fois. Il y avait tellement d'orgueil dans ma vie. Et même quand je pensais aux autres, au fond, je ne pensais qu'à moi, qu'à ma satisfaction personnelle. Et je vous avoue sincèrement, malgré toute cette gloire, j'étais malheureuse. Pourquoi? Je ne le savais pas à l'époque, mais c'est parce que j'étais sans Dieu dans le monde. Si on fait une petite révision du psaume que Régent nous a lu et que j'ai relu, j'étais malheureuse parce que je marchais selon le conseil des méchants. Et les méchants, mes amis, c'est tout le monde, parce que tous ont péché, selon ce que nous enseigne Paul dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23. Je n'étais donc pas meilleure que ceux qui me donnaient des conseils. Je m'arrêtais sur la voie des pécheurs, je m'assoyais en compagnie des moqueurs. Et je dois vous dire que je péchais avec eux, alors que je me laissais aller à toutes sortes de convoitises, telles que l'alcool, la drogue et les amours illicites. Je ne trouvais pas mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je ne la méditais pas parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je n'avais jamais lu la Bible. Mais dans son amour, un jour, Dieu s'est fait connaître à moi, tout comme il est en train de le faire pour toi, mon ami. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, mon ami, si tu crois en Jésus, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux, c'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.